France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Armistine Maupin. J'ai lu Mona et son manoir et j'ai tout de suite eu envie d'aller en Angleterre pour séjourner dans le fameux manoir aux fuites d'eau et aux chauves-souris. Tout ça pour rencontrer, par exemple cette fois-ci, Wilfried, Mona, Poppy et pourquoi pas George Michael.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un manoir, quelques personnages hauts en couleur, mille et une péripéties dont certaines violentes, un jury silencieux de chauves-souris, les ravages de l'épidémie sida et ceux de la transphobie, une chapelle abandonnée, une serre où pousse du cannabis et quelques fantasmes. Tout cela et bien plus encore aujourd'hui dans votre book club. Le nouveau roman de l'auteur des Chroniques de San Francisco choisit en effet le décor pluvieux et évocateur d'un typique et gothique manoir british. Armistead Maupin est notre invité. Ensuite, et comme chaque semaine, nous profitons du réseau de la rédaction internationale de Radio France pour prendre des nouvelles du livre en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, direction la Macédoine du Nord, où une autrice s'attaque à l'hypocrisie qui régit la société, notamment les normes familiales dans les Balkans. Et enfin, on jouera à chercher à trouver de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Armistead Maupin.
Bonjour.
Oh, soyez le bienvenu ici dans le Book Club de France Culture. Votre roman Mona et son manoir apparu aux éditions de l'Olivier dans une traduction vers le français signée Marc Anfreville. Bonjour Marguerite Capel.
Bonjour.
Pas tout à fait le même accent. Vous assurez l'interprétariat de cet entretien en direct. Merci beaucoup pour ça. Ravie de vous retrouver à ce micro. Marguerite, Armistead Maupin, dans ce roman, on va y venir, il y a ce manoir, personnage à part entière, et il y a une bibliothèque où les personnages se retrouvent, notamment pour avoir des conversations peut-être un peu plus intimes, un peu plus éloignées du groupe. Est-ce que ce sont des lieux où vous aimez bien passer du temps, les bibliothèques?
No. Yes and no.
Oui et non.
I chose that place because
j'ai
it was
choisi
quiet
cet endroit parce que c'était un endroit tranquille pour des conversations intimes.
What I love is the house.
Moi, ce que j'aime, c'est la maison, la demeure.
I was inspired as a young man.
Ça m'a, ce qui m'a inspiré, jeune homme, c'est un roman qui s'appelle Le Château de Cassandra.
In which an eccentric English family,
dans lequel une famille d'anglais excentriques
poor, broke,
qui sont très pauvres, qui ont perdu leur fortune, vivent dans ce château. Le père a toujours ce château. Et c'est un livre qui m'avait charmé immédiatement. J'avais un peu envie d'écrire un livre comme ça.
The house be part of the star.
Un livre qui permette au manoir de faire partie de l'histoire.
Long series of books,
ma série, mon œuvre, Les Chroniques de San Francisco, est justement fondée sur ces vieux appartements un petit peu biscornus de San Francisco. J'ai toujours été charmée par les maisons, par ce qu'ils représentent en tant que décor. Même quand j'étais petite, j'avais envie d'une plus belle maison.
Mais justement, est-ce que vous avez grandi dans une maison où il y avait des livres, Armistead Maupin?
Oh, yes, I did.
Oui.
Most of my books were Hardy Boys.
La plupart de mes livres, c'était la série des frères Hardy. Ma mère m'achetait un nouveau tome à chaque fois que je tombais malade. Et j'ai adoré les enquêtes. J'ai appris à lire avec ces livres-là.
Et vous avez beaucoup lu pendant votre enfance et votre adolescence?
A fair amount, yes.
Oui, j'ai pas mal lu.
Et ensuite, comment ça s'est passé votre parcours de lecteur, Armistead Maupin?
Est-ce qu'il faut que je parle de ma découverte de Sherlock Holmes?
Why not? Ça ou autre chose?
No, I think Sherlock Holmes is a big deal for me.
Sherlock Holmes a été très important pour moi.
I could understand it, even as a child.
Même enfant, je comprenais ça.
And, yeah.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans ces livres de Conan Doyle?
About the books?
Yeah, the Conan Doyle. À propos de ces livres-là, eh bien, il y avait toujours un mystère, une intrigue à résoudre, une énigme. Il y avait toujours ce sentiment que si on était intelligent, on allait pouvoir comprendre ce qui se passait. Je
ne
suis pas sûre de pouvoir développer davantage.
Aujourd'hui, la lecture, elle tient quelle place dans votre vie?
Much less, to be honest, because my
eyesight's not very good. Pour être franc, moins, parce que je vois beaucoup moins bien.
And it's harder.
C'est plus difficile pour moi de lire.
Sometimes I get it enlarged.
Parfois, j'achète les versions où je prends sur les versions avec les caractères plus gros. Ça m'aide un peu. Je les trouve sur Internet.
My husband and I are writing a book.
Mari et moi, on écrit un livre en ce moment ensemble.
About a San Francisco.
C'est un livre sur un écrivain de San Francisco.
Who worked for the same newspaper I did.
Qui a travaillé pour le même journal que moi à San Francisco, mais qui a vécu un siècle avant moi.
And was queer.
Il était
like
queer
me,
comme moi.
And went off to Hawaii, where
et il est parti à Hawaï. Et il est tombé amoureux d'un Hawaïen, d'un homme Hawaïen.
And at a time when it was just unheard of.
À une époque où vraiment on n'avait jamais vu ça. Il s'est senti très libre là-bas.
The culture there
parce que la culture autorisait cette relation. Ils avaient un grand lit, une espèce de lit monumental que les parents de cet homme leur avaient offert comme une sorte de cadeau de mariage. Et tout ça, ça avait vraiment, ça lui avait ouvert les yeux parce qu'il venait de San Francisco, où à l'époque, les attitudes étaient encore très contre l'homosexualité. Donc c'est intéressant de pouvoir réinventer ce monde au travers de son regard. C'est ça qu'on essaie de faire.
Est-ce que pour cela, vous avez des lectures historiques? Est-ce que vous, parce que vous mentionnez que c'est quelque chose qui s'est passé 100 ans avant. Oui, voilà, est-ce que ça fait partie de vos lectures en ce moment?
What's that?
Oui, oui. OK. Très bien. Et ça vous intéresse, j'imagine.
Pour être franc, je lis surtout des articles sur Internet.
This man,
mais cet homme-là
he kept diaries and he
il
wrote,
tenait son journal.
What is the word I'm trying to say?
Le mot juste.
Il a pris des notes de son histoire.
He took notes.
He took notes.
Oui, il prenait des notes, c'est ça.
And he wrote little essays.
Et il a écrit des petits essais, mais à l'époque, les gens n'avaient pas conscience justement du sous-texte gay qui pouvait être dans ces essais. Ils n'imaginaient même pas, d'ailleurs, que les Hawaïens étaient pleinement humains. Pour eux, c'était un peu bizarre de le penser. J'espère être clair.
Vous l'êtes, oui.
Je veux le ramener dans...
Et donc j'ai envie de ramener ce personnage dans le monde moderne aussi, pour raconter la même histoire.
Vous mentionnez ce monde où il était extrêmement difficile d'évoluer, une société très anti-gay, personnage qui était lui-même queer, Armistead Maupin. Est-ce qu'il y a des lectures qui ont été importantes pour vous en tant qu'auteur et en tant que personne queer?
Christopher Isherwood
Christopher Isherwood a été un de mes mentors. J'ai eu la bonne fortune de le rencontrer, lui et son jeune compagnon, quand j'étais moi-même tout jeune. Et j'ai énormément appris de l'existence queer auprès de lui. J'ai surtout appris à être satisfait de la personne que j'étais.
To challenge the notion that
et à remettre en cause l'idée qu'être queer, c'était mal. Il a vraiment ouvert, développé ma conscience d'une manière très belle.
Vous pensez que ça, c'est quelque chose que peuvent faire les livres sur les êtres qui, justement, cherchent des réponses ou ont difficulté?
Oui, absolument, les livres peuvent faire ça, toutes sortes de livres.
The book that made me want to write,
le livre qui m'a donné envie d'écrire...
It's a very odd thing.
C'est très bizarre.
A book called P.S. Your Cat is Dead.
C'est un livre qui s'appelait donc P.S. Your Cat is Dead, P.S. Ton chat est mort.
Which was written by James Kirkwood.
De James Kirkwood, qui a surtout écrit pour le théâtre à New York.
It's a marvelous comedy about
c'est une comédie absolument incroyable sur un homme dont la vie est en train de partir en vrille. Tout tourne mal et il a perdu son boulot, sa copine part.
And the end of the And that's where the title comes from.
Et c'est le titre. Parce qu'à la fin, on ajoute donc PS, par ailleurs, le chat est mort, en plus.
And in it, he meets a man.
Et dans cette histoire, il rencontre un homme.
Gangster, really.
Qui est une sorte de gangster, de bandit.
He falls for.
Et il va tomber amoureux de cet homme.
The book is all about that.
Et donc voilà de quoi parle ce livre.
Dans votre roman, Armistead Maupin, on croise aussi un livre d'Agatha Christie, La mystérieuse affaire de Steele. Est-ce que vous avez lu Agatha Christie? Est-ce que ça a été une autrice importante pour vous?
Oui, je l'ai lu.
Somebody yesterday described
Hier, quelqu'un
my book,
a parlé de mon livre comme
cozy crime,
un livre cozy crime, un cozy crime queer. Je n'arrive même pas à prononcer ça. C'est difficile. Et c'était un peu ce que je voulais faire. J'avais envie de remettre au goût du jour un genre un peu old-fashioned, un peu traditionnel, et de le remettre au goût du jour pour aujourd'hui. Ce n'était pas difficile d'écrire sur cette demeure, parce que je l'ai visitée, j'ai rencontré le seigneur, le comte excentrique qui y vivait, qui était tout à fait hétéro, mais très gay-friendly, très ami des homosexuels. Et j'ai été enchantée de cette visite, c'était il y a 40 ans. Mais c'était vraiment cette grande demeure qui avait 400 ans, la famille ne l'avait jamais quittée, ils avaient toujours vécu là, c'était quelque chose de fascinant pour moi. Donc j'ai simplement installé Mona dans cette maison.
Mona, c'est donc un personnage qui appartenait à cette foule de personnages des Chroniques de San Francisco, à Armistead Maupin, et qu'on retrouve ici dans Mona et son manoir. Autre autrice que nous croisons pour terminer ce portrait de lecture dans votre livre, elle apparaît en exergue, Virginia Woolf, avec les Trois Guinées, une citation des Trois Guinées. Est-ce que c'est aussi une autrice de votre constellation littéraire, Armistead Maupin, Virginia Woolf?
Well, I searched for the perfect epigraph.
Eh bien, j'ai cherché l'exergue parfaite pour ce livre et je suis tombée sur cette phrase de Virginia Woolf qui, pour moi, décrivait vraiment ce qui arrive au personnage central, à Mona. Et j'aime avoir une autrice en exergue. J'aime pouvoir citer Virginia Woolf pour ce roman-là. Parce que c'est vraiment un roman sur Mona qui va devoir avoir du courage à sa manière.
Et Woolf, c'est une autrice que vous avez lue par ailleurs?
Oh yes.
Oui.
On va parler de votre livre Armistead Maupin juste après cette chanson du groupe anglais Pulp. C'est une chanson qui s'appelle Mile End. Elle sort en 1995 et elle raconte la difficulté à trouver un logement et se faire un chez-soi dans un quartier pauvre de London. Dans les paroles, on trouve ces deux questions qui peuvent faire sans mal écho à votre roman. Si tu savais que c'était la fin du monde, pourrais-tu m'aimer comme un enfant? Pourrais-tu me serrer dans tes bras dans l'obscurité?
To live, we didn't have nowhere to go. Till someone said, I know this place I've been abroad. It was on the 15th floor. It had a board across the door. It took an hour to prise it off and get inside. It smelt as if someone had died. The living room was full of flies. The kitchen sink was blocked. The bathroom sink not there at all. Ooh, it's a mess, alright. Yes, it's my end. And now we're living in the sky. I never thought I'd live so high. It's just like heaven. If it didn't look like hell. The lift is always full of piss. The fifth floor landing smells of fish. Not just on Friday, every single other day. Kids come out tonight, they kick a ball and have a fight, and maybe shoot somebody if they lose a pool. Ooh, it's a mess, alright. Yes, it's we'll be right back.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Là où il y a du cœur, je suis chez moi, dit une chanson du groupe britannique Erasure, écoutée par les personnages de votre dernier roman, Armistead Maupin. Au programme de notre book club aujourd'hui, il y a des cœurs plus ou moins brisés dans le manoir gothique que vous choisissez pour déployer les différents fils de vos intrigues. Mona Rowton a fui les États-Unis, elle tient désormais une sorte d'auberge dans ce manoir d'Isley en Angleterre, et auprès d'elle, son fils Wilfred, que l'on découvre adoptif, l'aide. Un couple américain vient y parfaire son séjour européen pour le solstice d'été, mais le solstice est bien plus sombre qu'il n'y paraît. Le sida a fauché de nombreux amis, le mari américain est violent, une présence trouble rôde dans le jardin du manoir. Heureusement que l'on peut y compter sur les amitiés sororales et les familles plus logiques que biologiques. Mona et son manoir, apparu aux éditions de l'Olivier, Armistead Maupin, dans une traduction depuis l'anglais vers le français par Marc Anfreville. Tout à l'heure, vous disiez combien cette maison était importante, combien ce manoir était un personnage à part entière. On le rencontre dès les premières pages de votre livre.
Eastleigh House était une bâtisse assez anarchique de deux étages, dotée de pignons impressionnants et d'un toit pentu. La pierre calcaire s'était assombrie avec l'humidité et l'usure du temps, présentant désormais des nuances mêlées d'orange et de gris, un peu comme la fourrure d'un tigre. Des créneaux, aux allures de gros gâteaux de mariage, bordaient le haut de la façade, et la porte principale était si imposante qu'on la voyait de très loin. Des volutes de fumée s'échappaient d'une cheminée monumentale, quand Colin arrêta la voiture, dans une allée creusée d'ornières, sur le côté de la maison. Il se dégageait de tout cela une impression de délabrement digne d'un château de roman gothique. Rhonda sentit son rythme cardiaque s'accélérer en s'imaginant déjà en franchir le seuil.
Ce manoir de Isley, qui est là dès le titre de votre livre, Armistead Maupin, il joue quoi comme rôle dans votre désir d'écrire ce nouveau roman et puis dans la construction romanesque de ce livre?
Il a été très important parce que je voulais imaginer cet univers. Je n'ai jamais vécu. J'y ai passé quelques nuits. En tant que client. J'ai toujours énormément compté sur l'architecture. Je me suis beaucoup appuyé dessus dans les chroniques de San Francisco, ces vieilles maisons délabrées aux États-Unis, à San Francisco. C'est quelque chose qui m'aide. Quand je peux construire l'univers, me représenter l'endroit, me représenter les différentes pièces, les endroits où on va pouvoir se cacher, des endroits qui sont d'ailleurs très importants dans le roman. Et c'était plus facile d'y envoyer Mona que de créer un nouveau personnage.
Il y a ce couple d'Américains qui arrive dans le manoir et la femme qui est très excitée à l'idée de passer un peu de ce séjour européen dans le manoir. Elle a tout un tas de représentations, d'imaginaires qui viennent. C'est aussi un imaginaire littéraire qui vient avec le manoir, tous les romans gothiques, cet univers-là. Est-ce que vous vous êtes amusé avec Armistead Maupin? Est-ce que vous avez joué avec les codes qui vont avec le manoir british où il y a des animaux qui traînent, des présences un peu fantomatiques et une serre au loin?
All of those things contributed
oui, tout ça, ça a contribué
the sense that I wanted to write about it.
À mon envie d'écrire là-dessus.
When we visited this place, more recently, not
quand on
40 years
a revisité cet endroit plus récemment, pas la visite d'il y a 40 ans, j'ai appris qu'il y avait des chauves-souris dans le plafond.
And that they were protected.
Et que c'était des chauves-souris protégées.
If you did anything with the bats,
si on faisait quoi que ce soit en souris, la société de protection des chauves-souris allait
s'en prendre à vous.
Donc tout ça, ça contribuait aussi à la bizarrerie de cet endroit.
Les chauves-souris, il y en a dans votre roman Armistead Maupin. Vous en faites une sorte de jury silencieux ou même d'endroit pour aller questionner sa conscience. Mona, qui est donc la tenancière de ce manoir, se retire près des chauves-souris et puis presque leur adresse des questions, leur demande d'avoir un avis sur telle ou telle personne, sur ce qu'elles traversent. Comme des petits dieux, d'une certaine manière, à Armistead Maupin, ce ne sont pas les seules présences comme ça un peu étranges à qui on peut poser des questions.
C'est très bien observé. C'est ce que je voulais faire. Je voulais qu'il y ait un chœur. Je voulais lui offrir un chœur à Mona.
She has very few places to turn to. She's
elle
an
a
American,
très peu d'endroits vers lesquels se tourner. Elle est américaine, dans la campagne anglaise.
And, so she wants a confidante.
Donc elle a besoin de cette confidente.
On va écouter la voix de notre auditeur. Il est libraire à Joigny, dans l'Ogne. Il vous pose une question. Il a lu les chroniques de San Francisco. Il vous interroge à la fois les personnages, mais aussi les lieux.
Bonjour le Book Club, bonjour Armistead Maupin, j'ai lu Mona et son manoir et j'ai tout de suite eu envie d'aller en Angleterre, car vos livres, moi, me donnent envie de voyager. Alors c'est vrai que ça me donne envie de voyager moins pour découvrir les lieux que pour essayer de rencontrer vos personnages, qui évidemment n'existent pas, mais on a tellement envie de faire partie de la famille de Michael, d'Anna Madrigal, de tous ces personnages qui sont à la fois combatifs, courageux, drôles, touchants. J'ai cru comprendre que vous viviez désormais en Angleterre, lieu où se déroulent désormais les chroniques de San Francisco. J'ai donc une question à vous soumettre. Est-ce que pour vous, raconter une histoire nécessite le fait de connaître le lieu dans lequel elle se déroule? Sinon, venez quand vous voulez vous installer à Joigny pour y écrire de nouvelles chroniques. On vous y accueillera bien volontiers.
Merci beaucoup Christophe pour cette invitation, cette lecture et ces questions qu'on adresse tout de suite à Armistead Maupin. Est-ce qu'il vous faut connaître les lieux sur lesquels vous écrivez à Armistead Maupin?
Yes, I like to be inspired by places.
Oui, j'aime être inspiré par un lieu.
Everything I've ever written.
Tout ce que j'ai écrit. C'est le cas. Quand j'ai écrit les chroniques de San Francisco, ça m'est arrivé parfois d'aller ailleurs et dans d'autres
gives
pays.
Me strength.
Et en fait, c'est quelque chose qui me donne de la force.
Yeah.
Parce que vous prenez des notes, parce que vous observez, parce que votre rapport à l'espace, vous avez beaucoup parlé de l'architecture, mais...
Non, je me contente d'observer.
And I tell other people my stories.
Et puis de raconter mes histoires aux gens.
I would never take a note.
Je ne prends jamais de notes, jamais je ne ferai ça.
I'm not that scholarly.
Je ne suis pas assez érudit intellectuel.
Il y a dans la question aussi de Christophe l'idée que vos livres lui donnent envie de se déplacer, d'aller rencontrer la foule de personnages pour lesquels il ressent beaucoup de sympathie. Depuis tout à l'heure aussi, vous parlez de Mona comme une personne. Mona faisait partie des chroniques de San Francisco. Là, elle est tenancière de ce manoir. Vous entretenez quoi comme rapport avec tous ces personnages à Armistead Maupin?
Eh bien, Mona, je la connais depuis 50 ans. Donc, elle vit en moi. Elle m'habite depuis 50 ans. C'est ça. Notre relation, c'est pas du tout difficile de la faire sortir, en particulier ce personnage. Je crois qu'elle est plus proche de moi. Je suis plus proche d'être une activiste lesbienne qu'un homme gay menant une vie confortable. Elle dit ce qu'elle pense. Elle dit ce qui lui passe par la tête. Elle est impatiente, elle est agacée par l'état du monde de la même manière que je le suis. Elle est déçue. Par le monde. Michael Tolliver, c'est un personnage que j'ai créé comme relativement léger, joyeux, quelqu'un qui vit dans le monde et qui se débrouille bien pour l'habiter. Et j'ai de l'admiration pour ce qu'il parvient à faire, mais Mona,
tough cookie, as we say
in America. Ça a toujours été la dure à cuire.
And I like her.
Et c'est elle que j'aime bien.
Et alors,
I had some man in a gay bar in London.
Il y a un homme dans un bar gay à Paris hier soir qui m'a dit
«
Ah, vous allez dans cette librairie, mais elle est gérée par des lesbiennes. » J'ai dit « Ah, bah, je suis soulagée alors parce que je viens d'écrire un bouquin sur des lesbiennes. » Lui, il était critique en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout envie de parler avec lui.
People reveal themselves to
les gens parfois se dévoilent d'une manière tout à fait étrange.
And I can usually assume that
et
most
la plupart
people
du temps, je suppose que les gens qui aiment mon travail, mes œuvres sont un certain type de personne. Je ne veux pas dire qu'ils soient gays ou hétéros, peu importe, mais des gens qui sont tout simplement ouverts et qui cherchent à comprendre les gens. Et donc, quand on tombe sur des gens qui sont comme ça, obtus, fermés d'esprit, de manière tout à fait ordinaire, c'est toujours une surprise, et ça m'a surpris hier soir. Et je me suis éloignée de cet homme.
Christophe, il dit toute la tendresse qu'il ressent pour vos personnages, Armistead Maupin. Il dit on a envie de faire partie de leur famille, et c'est vrai, et même quand ils sont étranges, on a envie d'être avec eux. Qu'est-ce qui fait que vous bâtissez des personnages auxquels on s'attache, pour qui on éprouve ce sentiment très particulier en littérature, qui est quand même la tendresse à travers les pages?
Well, I guess the tenderness is mine.
J'imagine que c'est ma tendresse. C'est comme ça que j'aimerais que le monde soit.
They're not perfect characters.
Ce ne sont pas des personnages parfaits.
They are not all sweetness and light.
Ils ne sont pas que lumière et bonté.
I tend to kill off the characters that,
mais j'ai tendance à éliminer les personnages que je n'aime pas. J'ai remarqué ça récemment.
Oui, vous finissez même.
Oui, je ne veux rien révéler.
Oui,
mais
bon, voilà, d'accord. J'allais dire qui meurt.
J'envisage très sérieusement la mort de certains personnages.
Et enfin, pour en terminer avec cette longue question de notre auditeur Christophe, il mentionnait votre propre déménagement à vous, Armistead Maupin, depuis les États-Unis jusqu'à l'Angleterre où vous vivez désormais. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi dans ce mouvement, votre mouvement personnel, qui a influé votre écriture, qui a influé votre rapport à l'écriture de ce roman?
With
the
what?
Fact that you moved, does it have an impact on your writing this novel?
Certainly, because it's set in England.
Oui, certainement, puisque évidemment ça se passe en Angleterre, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu mettre en avant. J'aimais déjà ce pays. C'est un décor qui apparaissait brièvement dans Baby Cakes il y a longtemps.
So it was wonderful to be able to.
Donc c'était formidable de pouvoir écrire sur l'endroit dont j'avais rêvé depuis longtemps. Et très franchement, une des raisons qui nous a poussé à partir, c'était qu'on voulait fuir Donald Trump. Je sais que ça a l'air courageux, mais en fait, pas très courageux, mais en réalité, j'ai 81 ans et moi, je n'ai pas de temps à perdre avec des monstres pareils. Et Christopher, comme moi, on avait envie de passer un peu de temps à Londres. On l'avait fait quand on était plus jeune. Et c'est quelque chose qui nous convenait parfaitement.
Et puis
on peut venir à Paris très rapidement en Eurostar.
Vous dites à propos de Donald Trump et de son régime que vous n'avez plus de temps à perdre avec des monstres comme ça. Et il se trouve que, on va dire, l'une des figures monstrueuses de votre roman est un homme américain, violent, intolérant, qui a une vision du monde terrible, qui tabasse sa femme. Et il y a quelque chose comme une sorte de transposition, peut-être pas de Donald Trump, mais en tout cas d'une figure masculine extrêmement violente qui pourrait se lire dans l'un des composants du couple américain que vous mettez en scène dans votre roman.
Yeah, that's absolutely.
Oui, absolument.
Some of that man is based on my own father.
Cet homme est en partie inspiré de mon propre père qui avait beaucoup de préjugés similaires. Je crois que c'est de là que ça vient.
Early timidity.
Et d'une certaine façon, je crois que j'ai aussi utilisé la timidité de ma mère, ses hésitations pour le personnage de Rhonda. C'est assez courant, malheureusement, que les hommes tyrannisent les femmes, en particulier dans le sud américain. Et moi, je suis dans le camp des femmes dans ce roman. Je suis toujours dans le camp des femmes. J'ai toujours écrit avec, de façon affectueuse, les personnages féminins. C'est une femme qui m'a acceptée, qui a été la première à m'accepter quand je me suis installée à San Francisco en arrivant de Caroline du Nord. Parfois, j'ai une tendance à détester les gens et je le cache. Et donc, ça ressort dans ma fiction.
Je le disais, il y a quelque chose du solstice d'été, d'une fête païenne qui se prépare dans ce manoir. Il va y avoir même une sorte de feu de joie à la fin. Mais il y a une autre mélancolie plus sombre qui plane. C'est l'épidémie de sida. Elle est à la fois légèrement lointaine puisqu'elle arrive presque comme une rumeur de la ville et en même temps très proche parce que beaucoup des êtres de ce roman ont perdu des êtres chers par l'épidémie du sida. On écoute un nouvel extrait de votre roman, Armée Sept Maupin.
Mona et Michael paraissaient dans la bibliothèque, pelotonnés dans de vieux fauteuils confortables. « Tu en as perdu combien ?» demanda Michael. Mona haussa les épaules. « Est-ce qu'il faut vraiment tenir le compte, Mousse ?»« Désolé, j'y ai renoncé, moi aussi. » Le maître de Nila, c'est celui dont la mort m'a le plus atteinte l'an dernier. Après, il y a eu un traiteur que je connaissais, et 6 mois plus tard, son petit ami. Et puis, pas mal de types que Wilfried avait rencontrés au village, dont certains étaient encore étudiants. Un plombier dont j'avais fait travailler, et un vieux prof qui n'en parlait jamais. « Dis-moi d'arrêter. »« Arrête, » murmura Michael avec douceur. La plupart de ceux que je connaissais étaient superbes. À quoi ça rime tout ça? Est-ce qu'ils avaient plus de rapports sexuels parce qu'ils étaient beaux? Ou bien est-ce qu'ils fréquentaient les mêmes bars? Et ne viens pas me dire que l'ange de la mort les punit parce qu'ils sont jolis garçons. Michael lui sourit. Ton hypothèse est fausse. Je connaissais plein de types moches qui sont morts du sida. Choquée, Mona eut un mouvement de recul. Mousse, c'est pourtant la vérité, personne n'y échappe. Je sais. Je suppose qu'on remarque surtout les beaux mecs qui l'attrapent. Wilfried connaît 3 Love Muscle Dancers qui en sont morts. C'est quoi ça, les Love Muscle Dancers? Des types qui se produisent dans un club à Brighton, des culturistes qui brandissent leur bite sur la scène à la fin du numéro. Tu y es déjà allé? Mon Dieu, non. J'ai fait le plein de ce genre de trucs pour toujours. Michael lâcha un petit rire. Les hommes, c'est fini pour toi, hein? Ah, j'ai jamais dit ça, je ne sais pas bien où j'en suis en ce moment. Et la postière? Quoi la postière? Ça roule toujours? C'est terminé. Super au pieu. Mais j'ai découvert qu'elle était complètement transphobe.
Un extrait de votre roman Armée Sept Maupin, Mona et son manoir, dans la traduction vers le français de Marc Anfreville. C'est un des nombreux dialogues qui rythment la manière dont vous menez les nombreuses intrigues à Armée Sept Maupin. Et ici, la mélancolie plane dans ce dialogue entre Mona et Michael qui ont perdu des amis proches. C'est une façon de revenir sur le drame d'une épidémie qui n'est pas terminée, mais de revenir au cœur de l'épidémie sida. Pourquoi est-ce que ça vous tenait à cœur, Armée Sept Maupin?
It's been a big part of my life.
Ça a été une partie importante de ma vie. C'est une mélancolie que je ressens en permanence. J'ai perdu certains de mes amis les plus proches. Et j'ai le sentiment que la jeune génération n'a pas vraiment compris à quel point c'était horrible. Je n'ai pas envie d'être un de ces vieillards qui disent « Oh, c'est beaucoup plus terrible à notre époque », mais dans le cas de l'épidémie de sida, c'est vrai. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Mes romans ont été les premiers dans lesquels on parlait du sida, de tous les livres qui existaient. Quand Dan Fielding, l'un des personnages, meurt du sida au début des années 80, c'était une façon d'enregistrer, de rendre compte de ma propre douleur. Ce roman est au milieu de la série. Ce n'est pas la conclusion. Mais ça se passe au début des années 90. Avec ce roman-là, on se situe plutôt au milieu. Donc ça me permettait justement de revenir et d'essayer peut-être de parler de ma propre douleur mieux que je n'avais su le faire avant. Je crois que j'avais surtout envie d'être justement précis.
And it's the same for everywhere.
Et c'est la même chose partout. La souffrance des hommes à Londres était identique à celle que nous on a ressentie à San Francisco.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir, Armistead Maupin, de cette période-là où le sida a commencé à véritablement décimer la communauté homosexuelle?
Ben, c'est difficile de résumer ça en un souvenir, mais c'était partout et les fantômes étaient partout dans les rues. Les gens tombaient très vite. C'était vraiment très dur. Et à l'époque, quand on était séropositif, on était condamné à mort. Mais je suis ravie de dire que mon mari, avec qui je vis depuis 21 ans, est séropositif depuis le début. Il prend soin de lui, il se soigne. Et il a bien intérêt à me survivre, parce que j'ai 30 ans de plus que lui.
Il y a quelque chose, je parlais tout à l'heure de tendresse, on parle de mélancolie, mais dans la voix de Mona, il y a une évocation aussi de la possibilité de faire revivre les amis perdus, les silhouettes perdues, quelque chose de très communautaire. Et c'est aussi ce à quoi aspire un autre personnage dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, Armistead Maupin, c'est Wilfred. Wilfred, c'est un jeune homme et il a très envie de vivre au milieu de ce monde encore frappé par l'épidémie sida. Il a envie d'aller dans des bars, il a envie de faire l'amour, d'avoir plein de partenaires. Il fait moins attention peut-être que ce qu'il devrait faire. Il vous sert à raconter quoi, ce personnage, Armistead Maupin?
That's me.
Eh bien, c'est moi.
I mean, when I was young,
quand j'étais jeune.
And you're discovering yourself,
quand on se découvre en tant qu'homosexuel, on a envie de saisir toutes les occasions de rencontrer des gens, de tomber amoureux, d'avoir des aventures dans les bois. Donc c'est une sorte de petit intervalle qu'il ouvre au centre du roman, le moment où il va quitter la campagne pour aller en ville. Wilfred est un de mes personnages préférés, je l'adore.
He's aboriginal. Did we mention that?
Il est aborigène, je ne sais pas si on l'a mentionné, il est d'origine aborigène.
And he confronts prejudice himself,
et
you know.
Il lui aussi, il est confronté aux préjugés.
Yeah.
Et c'est très difficile de vous raconter, c'est-à-dire que ce rapport à la ville, Armistead Maupin, et son désir d'aller dans d'autres lieux que le manoir dans lequel il évolue avec Mona, ça raconte aussi comme c'est délicat dans cette campagne de pouvoir vivre librement, pleinement, son homosexualité, son rapport au plaisir, son rapport au corps des hommes. Ça dit aussi cette idée qu'il lui faut quitter cette campagne pour aller vivre autre chose, pour aller vivre librement.
Well, that's why Mona lets him do it.
C'est pour ça que Mona le laisse partir.
She becomes very much like everybody else's mother.
Comme les mères de elle est comme n'importe quelle mère en fait dans ces moments-là. Elle veut qu'il fasse attention, elle veut qu'il lui donne des nouvelles. Elle a elle-même fait des folies quand elle était jeune, mais maintenant elle a quelqu'un dont elle s'occupe et elle est vraiment déterminée à prendre soin de lui.
Parce qu'elle fait semblant qu'elle ne l'attend pas la nuit, mais un petit peu plus tard, elle vient quand même lui demander s'il a à peu près fait attention à lui dans ses bars et dans ses nuits. On a peu parlé pour l'instant de ce duo que forment Mona et Wilfred. C'est une famille que vous appelez plus logique que biologique, Armistead Maupin. On va écouter l'autrice Joy Carol Oates parler de la modification justement de ces modèles de famille qui peuvent peut-être former aussi de nouveaux imaginaires.
Traditionnellement, la famille était le moule dans lequel on façonnait l'enfant. Mais aujourd'hui, la famille est très différente. Il existe toutes sortes de familles, des familles composées de couples de même sexe, mariés, qui peuvent adopter un enfant ou en avoir un. Et puis, il peut aussi y avoir des familles qui ressemblent à des communautés, des gens qui vivent ensemble, partagent une maison et qui forment bel et bien une famille. Ils peuvent avoir des chiens et des chats considérés comme des membres à part entière. Ils cultivent parfois un jardin partagé et en tirent un petit revenu. Bien sûr, la fameuse famille nucléaire, le père, la mère et les enfants, existe encore. Mais ce n'est plus le seul modèle aujourd'hui, et ça, c'est une chose vraiment merveilleuse.
L'autrice Joyce Carol Oates, en août 2023, qui parle de ce profond changement de nos sociétés actuelles, Armestead Maupin, sur les modèles de famille. Ici, il y a plusieurs choses qui se jouent. On l'a dit dans le duo entre Mona et Wilfred, donc ce n'est pas sa mère biologique, mais il y a aussi une sorte de nouvelle communauté qui se crée dans ce manoir. On essaye d'en dévoiler le moins possible sur l'aspect un peu criminel, noir de votre roman et de ne pas dire grand-chose, mais on va dire que cet élément violent, le mari américain, est comme mis à l'écart pour favoriser quelque chose de plus féminin, de plus sororal, de plus militant, de plus combatif, de plus amical aussi. Ce qui crée une sorte de contrepoint à une famille plus nucléaire. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans, Armestead Maupin? Est-ce que ça vous plaît de raconter ces façons de faire famille?
Well, my work has been based on that.
Bien, tout mon œuvre est fondée là-dessus.
And I don't mind stacking the cards against a difficult man.
Ça ne me pose pas de problème de m'en prendre à un homme difficile, méchant.
Yes, I'm very much on the side of the women.
Je suis tout à fait dans le camp des femmes.
That must be obvious, but
je crois que c'est assez évident.
It's where my own allegiance lies.
C'est là, en tout cas, que va mon allégeance.
Most straight men have to prove themselves.
La plupart des hétéros doivent d'abord me prouver qu'ils en sont dignes pour que je les accepte dans ma famille.
There are such men in San Francisco.
Heureusement, il y en a à San Francisco. Je les ai abandonnés derrière moi. J'en suis très triste, mais j'espère les revoir.
There are good men who,
il y a des hommes bien.
Who want to be better men.
Qui veulent être des hommes meilleurs.
On a dit l'importance de l'imaginaire. Tout à l'heure, vous avez dit, Armestead Maupin, les livres peuvent bouger les vies, évidemment. Est-ce qu'écrire des histoires comme celles que vous écrivez, avec d'autres formes d'amitié, d'autres formes de famille, d'autres formes d'entraide, ça peut continuer de bâtir d'autres imaginaires familiaux, d'autres façons de s'aimer, d'autres façons de s'aider, d'autres façons d'avancer dans la vie? Est-ce que la littérature peut participer à bâtir ces nouveaux imaginaires?
Naturellement.
Mais naturellement. Et c'est aussi
it
pour
can
ça.
And it does.
Bien sûr, non seulement elle le peut, mais elle le fait.
We can only see the possibility of new lives
on ne peut voir que des potentiels, que des nouvelles vies potentielles si on oublie ce qu'il y a dans notre tête.
That's what I've always tried to do
c'est ça
with
que
my
j'essaye
books.
De faire avec mes livres.
All 10 of the Tales of the City books
les 10 livres de la série des Chroniques de San Francisco défendent une nouvelle vision de la famille.
And it proves it's successful.
Et ça marche.
I feel that's my greatest success.
Je pense que c'est ma plus grande réussite. C'est d'entendre des gens me parler de la vie qu'ils mènent aujourd'hui. Des femmes qui ont élevé des garçons ensemble, avec d'autres femmes.
Yeah.
Qu'est-ce qu'on gagne à faire éclater le modèle ancestral de la famille nucléaire et patriarcale, Armestead Maupin?
Oh, everything.
On gagne tout.
The patriarchal system has
le système patriarcal a fait tellement de dégâts dans le monde. Trump en est l'exemple parfait. Il a cette femme opprimée qui lui sert d'épouse. Et il encourage les autres hommes à grab a pussy, il disait, attraper une chatte.
It's that kind of thinking that's so
c'est ce
pointless.
Genre de façon de penser qui est vraiment extrêmement pernicieux.
On va écouter la voix d'un auteur que vous avez cité, il s'appelle Christopher Isherwood. On va l'écouter parler de ce sentiment d'étrangeté.
Je suis vraiment un étranger né, c'est la vérité. C'est même un type anglais assez courant, quelqu'un qui ne vit pas en Angleterre. Mais je n'essaie pas du tout de me justifier. Je veux dire, je trouve que l'Angleterre est aujourd'hui 1000 fois meilleure à tous égards, ou du moins meilleure pour moi, ou plus proche de ce que j'aimerais qu'elle soit, comparée à ce qu'elle était quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, je m'y sens tout à fait chez moi, tout en restant étranger.
La voix de Christopher Isherwood, qu'on va mettre en écho avec la citation de Virginia Woolf que vous placez en exergue de votre roman « Armistice de Maupin ». Maupin, en tant que femme, je n'ai pas de pays. En tant que femme, je ne veux d'aucun pays. En tant que femme, le monde entier est mon pays. Isherwood, qui est un écrivain britannique, qui a été naturalisé américain en 1946, qui parle de la difficulté de trouver un chez-soi. C'est aussi ce qu'évoque votre roman « Mona et son manoir ». Où est-ce qu'on peut trouver quelque part où se sentir chez soi, Armistice de Maupin?
Comme je l'ai dit, Isherwood était mon ami et aussi une source d'inspiration. Je pense que quand on s'installe dans un nouveau pays et qu'on doit s'y faire une place en tant qu'étranger, quelque part, on a le meilleur des deux mondes. On devient citoyen du monde. C'est vraiment tout à fait ce que dit la citation de Virginia Woolf. Quand on s'arrache à une culture et qu'on s'installe dans une autre, on découvre davantage de vérités sur soi.
Vous diriez que c'est ce qui a produit pour vous le fait de quitter les États-Unis, de découvrir quelque chose de profond sur vous? Eh bien,
j'ai trouvé ma vérité en quittant le Sud américain pour aller à San Francisco. À l'époque, j'avais l'impression de fuir l'Amérique. Et quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus échapper à l'Amérique à San Francisco, on a choisi un nouveau pays.
La citation de Virginia Woolf va encore plus loin. Elle dit « En tant que femme, je ne veux d'aucun pays ». Est-ce que vous comprenez ce sentiment-là de vouloir aller jusqu'au bout et de s'arracher à toutes les appartenances à rester de Maupin?
Oui, je comprends tout à fait ce sentiment. Je n'ai pas du tout envie d'être un Britannique patriote. Je n'ai pas du tout envie de me mettre d'un seul coup au culte de la monarchie. Je peux fonder ma vie là-bas sur les gens que j'y rencontre. J'ai un coach, un entraîneur sportif qui vient deux ou trois fois, non par jour, mais par semaine, qui vient d'Ouganda. Il ne ressemble à personne que j'ai jamais rencontré. C'est quelqu'un de plus intelligent que je ne le serai jamais. Il sait absolument tout sur tout. Et j'ai le sentiment de découvrir la culture africaine directement grâce aux gens que je rencontre à Londres.
Est-ce qu'une manière de n'appartenir à aucun pays de façon patriotique, pour reprendre vos mots, Armistice de Maupin, ce serait, et désolé pour une formule qui pourrait paraître un peu béate mais, ou simpliste, mais ce serait appartenir à la littérature? Ce serait trouver dans les livres, dans l'écriture, dans la lecture, un endroit où être home?
Moi, j'ai trouvé mon identité dans mes propres livres. Ce sont des livres qui ont amené les gens dans ma vie, des gens qui m'ont permis de me sentir fort. Les livres peuvent tout à fait faire ça. La télé aussi peut faire ça. J'ose le dire. Peut-être la radio.
This one certainly is.
En tout cas, ce programme-ci, cette émission, tout à fait, c'est une super émission.
We have nothing like it in the States.
On n'a rien de semblable aux États-Unis. Et les rares endroits où ça existe, Trump s'apprête à les détruire.
Alors le book club continue.
Yeah.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, comme chaque semaine, nous profitons, eh bien, justement, de ce réseau de correspondantes et correspondants de la radio publique de Radio France pour prendre des nouvelles du livre Au-delà de nos frontières. Avec vous, Louis Seyer, vous êtes correspondant de Radio France dans la région de Macédoine du Nord. Bonjour Louis.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et tous.
Alors Louis, vous aviez envie de nous parler de l'une des plumes montantes des Balkans. Il s'agit de l'autrice macédonienne Roumena Boujarovska.
Oui, exactement. Originaire de Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord, Rumena Bujarovska s'est imposée ces dernières années comme l'une des nouvelles figures de la littérature post-yougoslave. Et pourtant, le défi était de taille pour cette autrice de 44 ans, puisque la scène culturelle de son petit pays reste peu mise en avant à l'international. Et Rumena Bujarovska écrit avant tout des nouvelles dans sa langue maternelle, le macédonien, qui compte autour de 2 millions de locuteurs. Tout cela n'a pas empêché cette enseignante de littérature américaine de conquérir un public très large, puisque ses recueils sont aujourd'hui traduits dans une douzaine de langues, et notamment en français, par Gallimard.
Et ce succès, Louis, cette autrice le doit à ses fictions féministes, où elle fait feu de tous les tabous, et tout ça avec un humour décapant.
Oui, avec sa plume malicieuse, Rumena Bujarovska prend beaucoup de plaisir à décortiquer les hypocrisies du quotidien et les contraintes imposées par les normes sociales, notamment celles qui régissent la famille traditionnelle. Le modèle est encore largement prédominant dans les Balkans où l'Église et ses conservatismes restent très influents. Dans « Mon cher mari », son premier recueil publié en français en 2022, elle dépeint dans un style tragicomique haut en couleur le quotidien de 11 femmes et leur difficulté à vivre aux côtés d'hommes arrogants, lâches, menteurs et destructeurs. Si les hommes en prennent pour leur grade, les femmes quadra qui s'expriment dans ces nouvelles ne sont pas non plus épargnées, puisque leurs émotions sont exposées sans filtre, âprement moquées, mais avec une bienveillance certaine. En Macédoine du Nord, mais aussi chez les pays voisins, Rumena Bujarovska est d'ailleurs connue pour son engagement féministe, notamment avec ses podcasts qui sont particulièrement suivis par la nouvelle génération.
La tragique banalité du couple, on la retrouve à nouveau dans son dernier livre, qui se concentre cette fois-ci sur un phénomène qui frappe durement le pays des Balkans, c'est celui de l'exil.
Et oui, dans les 7 longues nouvelles qui composent son dernier recueil paru en janvier et intitulé « Je ne bouge pas d'ici », Rumena Bujarovska questionne cette fois-ci les réalités de l'émigration, du départ et du déracinement. Que ce soit des membres de la diaspora qui reviennent quelque peu désorientés dans leur pays en pleine transition néolibérale, des expats de Skopje, fiers de leur statut de nouveaux riches, ou des couples confrontés à leur début en tant qu'émigrés dans une Amérique peu accueillante, ce livre raconte avec une douce ironie les espoirs déçus d'une vie meilleure loin de chez soi. Ces histoires résonnent particulièrement dans les Balkans, puisque tous les pays du sud-est européen connaissent actuellement une grave crise démographique. Confrontés aux difficultés économiques et à une corruption omniprésente, la jeunesse de la région émigre en masse et les sociétés se vident littéralement. En 30 ans, la Macédoine du Nord a par exemple perdu près d'un cinquième de sa population. Les fantasmes et la dure réalité de l'exil, Rumena Bujarovska les aborde avec finesse dans ce dernier livre, toujours avec l'humour acide qui caractérise son écriture.
Et on mettra la référence de ce livre, évidemment, sur la page de Lecture sans frontières sur le bookclubfranceculture.fr. Un très grand merci, Louis Cellier. Dans cette émission dont vous disiez à l'instant le plus grand bien, à Mestet de Maupin, on joue à la fin, tous les jours, on joue à un jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. Il s'agit de chercher de la musique partout où il y en a dans les livres. Donc on propose à nos auditeurs et auditrices de le faire. Et parfois on joue tout seul comme des grands. On a trouvé de la musique dans votre roman et on termine donc avec un extrait de Mona et son manoir. Dans la douceur du crépuscule anglais, leur teint avait l'éclat satiné de statuettes de porcelaine, de ces figurines ladros peut-être, devant ce décor de collines bleues qui s'élevait dans le lointain. « Là-bas, c'est le pays de Galles, » dit Wilfred, qui paraissait avoir lu dans ses pensées. « Vraiment ? Un autre pays ? » ?»« Eh ouais, une autre langue aussi. Incroyable !» Elle but une nouvelle gorgée de scrumpy, décidément délicieux. « Un peu de musique, ça vous plairait ?» proposa Wilfred. Un lecteur de cassette était posé devant lui. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?»« Je vous laisse choisir. » Il mit alors un morceau intitulé « Blue Savannah », une chanson entraînante interprétée par un groupe anglais qui répétait sans arrêt « Là où il y a du cœur, je suis chez moi. » Parfaitement en accord avec le moment. Pour l'heure, au moins, elle se sentait chez elle, sur cette colline magique, avec la lune qui montait dans un ciel indigo, et les fenêtres de la majestueuse demeure qui brillaient en contrebas. Merci beaucoup, Armistead Maupin, d'avoir été avec nous pour évoquer votre livre Mona et son manoir. Elle a quoi comme place, cette chanson-là, qu'on a évoquée deux fois dans l'émission Savannah Blue, avec l'idée que là où il y a du cœur, je suis chez moi?
Yeah, it's expression of home.
C'est justement une traduction de ce que c'est qu'être chez soi. C'est quand Mona monte au sommet de la colline et qu'ils sont en train de pique-niquer. Il y a vraiment cette satisfaction, ce contentement exprimé par la chanson. C'est là qu'on est chez soi.
Là où il y a le cœur. Merci beaucoup à vous, Marguerite Capel, d'avoir assuré l'interprétariat de cet entretien. Au son aujourd'hui, c'était Dali Yaha, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club. J'ai essayé de les citer complètement de mémoire. Par exemple, Léa Weiss-Grus, Louise Hott, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor et Alexandra Lajbegovic qui anime la communauté du Book Club sur le compte Instagram. Avant de se quitter complètement aujourd'hui, vous rappelez que notre série révisée, le bac français 2025, est en ligne sur franceculture.fr. Vous pouvez retrouver toutes les émissions que nous avons faites à propos des textes au programme du bac général et du bac techno, à chaque fois avec des professeurs et des spécialistes. Et tout ça, c'est dans le cadre d'une grande opération révisée le bac 2025, portée par le groupe Radio France tout entier. 800 podcasts à votre disposition pour préparer les épreuves. Et demain, c'est Volmir Cordero qui nous fait visiter sa bibliothèque pour le Book Club.